Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Prions, Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de ces divines consolations par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort.
Nos saints anges gardiens, Saint Pidis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, Saint Jérôme, au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mettez le téléphone. Attendez. Mettez-vous là au Seigneur, non? Voilà. Bon, sur le polycopier, nous en sommes donc au chapitre 8. Verset 5 de Saint Matthieu, dans le deuxième polycopié, page 21. Ce sont les belles pages de Saint Matthieu qui suivent immédiatement le sermon sur la montagne. Donc, lorsque Jésus fut entré dans Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché dans ma maison. » Atteint de paralysie et il souffre extrêmement. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Mais le centurion répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit. Veuillez seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis un homme soumis à la puissance d'un autre, ayant sous moi des soldats, je dis à l'un, allez et il va. À l'autre, venez et il vient. Et mon serviteur, faites cela et il le fait. Vous savez que l'Église a repris ses paroles juste avant la communion, pendant la Sainte Messe. Donc on les répète trois fois, « Domine non sum digno, Seigneur, je ne suis pas digne que vous veniez en moi. Seulement dites une parole et votre serviteur sera guéri. » Donc Capharnaüm, c'est une ville qui est en fait la ville de notre Seigneur. Notre Seigneur allait souvent à Capharnaüm. Donc c'est ça représente, au sens figuré, ça représente l'Église. L'Église formée par la réunion des gentils. Donc non pas l'Église des Juifs, mais l'Église des gentils. Alors, au sens spirituel, donc, le centurion donc, qui s'approche de lui, c'est un Romain, donc c'est un païen, aux yeux des Juifs. Donc, il s'approche de lui pour demander pas simplement la guérison de son serviteur qui est couché atteint de paralysie, mais aussi sa propre guérison. C'est ce que disent les pères. On doit regarder les gentils comme des malades en ce monde, anéantis sous le poids des maladies suite à leurs péchés, à qui leurs membres languissants et sans vigueur ne permettent ni de se soutenir ni de marcher. N'oubliez pas que les païens de l'Ancien Testament, enfin du temps de notre Seigneur, donc les Juifs ici, donc étaient des gens qui n'avaient aucune aide spirituelle, strictement parlant. Ils n'avaient pas les Lévites, ils n'avaient pas la loi, ils n'avaient rien du tout. Et donc, il faut, de la part de ce centurion, un acte de foi extraordinaire, puisque contrairement aux Juifs, il ignore pratiquement tout de notre Seigneur Jésus-Christ. Les Juifs savaient qu'allait venir le Messie, qui est le Messie et viendrait et serait reconnu par tout ce qu'il fait pour diriger son Église ici-bas sur la terre. Mais le centurion, donc un Romain qui ne connaît pas la loi juive, je dirais, doit faire un acte de foi supplémentaire parce que justement il n'a rien reçu en dehors de ce qu'il a entendu peut-être sur notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dû entendre des choses, sinon ce ne serait pas proche de lui. Donc il met son petit orgueil dans sa poche, le mouchoir par-dessus, et puis il va se présenter à notre Seigneur Jésus-Christ. Il fait un acte de foi extraordinaire. Remarquez l'humilité de ce centurion. Il ne dit pas, Seigneur, guérissez mon serviteur. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, mon serviteur est malade. Parce qu'il sait, c'est ça qui est magnifique dans cette profession de foi du centurion, c'est que par avance, il accepte ce que le bon Dieu va faire. Donc il ne va pas pour demander la guérison de son serviteur, il prévient simplement notre Seigneur que son serviteur est malade. Et donc par avance, il accepte ce que va faire le serviteur. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Je pense que c'est un. J'en ai parlé, je crois, dimanche dernier au sermon. Je pense que c'est un des problèmes très fréquents dans les prières de la plupart des fidèles, c'est que on a trop tendance à demander, mais on ne soumet pas ses demandes à la volonté du bon Dieu. Donc là, en quelque sorte, qu'est-ce que dit le centurion? Il dit à notre Seigneur, Seigneur, que votre volonté soit faite. Et je crois que une des grosses difficultés, c'est que très souvent, on demande des tas de choses, mais on pense pas vraiment à dire à mon Dieu, ben, je demande à condition que ça vous plaise. Et je dirais peut-être que la meilleure des prières, strictement parlant, c'est rien demander du tout. Parce que le bon Dieu qui est Dieu sait mieux que nous ce qu'il nous faut. Donc peut-être que la plus belle prière, c'est d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est Dieu, le remercier pour toutes les grâces qu'on a reçues, Dieu sait si on en a reçues. Et puis ne rien demander, mais se présenter comme un enfant devant sa mère, devant son père, et qui sait que ses parents vont lui donner ce dont il a besoin. Parce que si on commence à demander, c'est beaucoup trop notre volonté propre qui commence à agir. En plus, on peut se tromper. On peut demander des choses qui ne correspondent pas à ce que le bon Dieu veut pour nous. Regardez Saint Paul qui a demandé d'être libéré de sa tentation, et puis ce n'était pas du tout la volonté du bon Dieu pour lui, donc il l'a pas fait. Et c'est ça qui est beau dans cette présentation du centurion. Hein. Il ne demande pas la guérison. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui lui dit, j'irai et le guérirai. En plus, notre Seigneur, il faut le noter, utilise un futur. Je le guérirai, j'irai. En gros, il dit presque, c'est à la limite de lui dire actuellement vous me dérangez. Actuellement vous dérangez, plus tard j'irai quand j'aurai le temps. Et le centurion si vous voulez, va insister, mais avec une extrême humilité. Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit. Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit. Pourquoi? Parce que je ne suis pas un juif. Donc je ne fais pas partie du peuple élu. Et là déjà, notre Seigneur Jésus-Christ prépare un petit peu les juifs à accepter le fait qu'il va y avoir un autre peuple qui va commencer à arriver, qui va être guéri par notre Seigneur Jésus-Christ. Les juifs, il y a plein de juifs autour de lui qui entendent ces choses et qui pourraient se dire, mais qui s'occupe de ses affaires. Ce gars-là, ce centurion, c'est un étranger, ça représente justement quelqu'un qui n'est pas dans notre église. Et on voit exactement la même image dans la parabole du bon samaritain, qui était il y a deux ou trois dimanches. On trouve exactement la même chose. Vous voyez? Ou plus exactement, c'est même pas la parabole du bon samaritain, c'est l'évangile, je crois, de dimanche dernier, qui est dit l'hébreu. Et donc j'ai oublié d'expliquer ça dans le sermon, parce que ça m'est venu après. J'ai expliqué ce matin, quand j'ai prêché à Perpignan, là. Il y a 10 lépreux qui s'approchent de notre Seigneur. Notre Seigneur ne les guérit pas directement et va les envoyer vers les prêtres en disant allez voir les prêtres. Et quand ils y vont, ils sont guéris. Il n'y en a qu'un seul qui revient. Et celui qui revient, c'est l'étranger. En fait, ce que j'ai oublié d'expliquer dans le sermon de dimanche dernier, c'est que cet étranger qui revient, c'est celui qui n'appartient pas à la religion juive. Donc, déjà, notre Seigneur Jésus qui annonce, le seul qui est venu pour remercier notre Seigneur, pour rendre grâce, c'est le Samaritain, donc l'étranger. Donc notre Seigneur Jésus-Christ déjà là montre qu'il est en train de se couper de ceux qui n'ont pas su remercier notre Seigneur Jésus-Christ des grâces, qui ont reçu le Messie qu'ils n'ont pas reçu. Non seulement ils n'ont pas reçu, il est venu chez les siens n'ont pas reçu, comme dit Saint Jean. Donc les Juifs n'ont pas reçu notre Seigneur Jésus-Christ, ils vont crucifier le Messie. Alors notre Seigneur Jésus-Christ va aller chercher un Samaritain qui lui revient. Donc ce Samaritain qui revient vers notre Seigneur Jésus-Christ est le symbole de l'Église catholique. C'est en fait l'Église catholique. Donc les 9 juifs qui ne reviennent pas, c'est le symbole, de l'Église juive. Donc attention, qui représente le peuple élu de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament amène donc ce Samaritain qui va venir remercier notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le symbole du nouveau peuple élu, à savoir le peuple élu qui est le peuple des catholiques, donc élu par le baptême. Et là, on voit exactement la même chose. Vous voyez, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit. Pourquoi? Parce que je ne suis pas un catholique. Hein. Je ne suis pas, attends, il dit pas, je ne suis pas un catholique. Je ne suis pas, je ne fais pas partie du peuple élu. Voilà ici le sens mystique, ce toit. Donc il dit, Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit. Ce toit, cette demeure, c'est le corps qui sert d'enveloppe à l'âme et qui par un dessein du ciel couvre à tous les regards la liberté de l'âme. Dieu ne dédaigne pas de faire sa demeure dans notre chair mortelle, ni d'entrer sous le toit de notre corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ va accepter, pour bien montrer qu'il est venu pour tous les hommes, il ne va pas simplement aller chez les Juifs, donc sous les toits des Juifs, mais aussi sous le toit des gentils. On peut voir donc, disent les pères, dans les serviteurs du centurion, donc il vient mais il y a des serviteurs avec lui, dans les serviteurs du centurion, les vertus naturelles qui brillaient dans un grand nombre de gentils, les gentils c'est les non-juifs, ou bien les pensées bonnes et les pensées mauvaises. Aux unes, nous devons dire « Retirez-vous » et elles se retirent. Aux autres, « Venez » et elles viendront. Et nous devons également commander à notre serviteur, c'est-à-dire à notre corps, de se soumettre à la volonté du bon Dieu. Voyez. Donc, notre Seigneur, la prière du centurion, elle est magnifique parce qu'il ne demande rien pour lui. Il ne demande même rien pour le serviteur. Il ne parle même pas de lui-même, d'ailleurs. Il parle du serviteur. Il parle d'abord du serviteur. Mon serviteur est malade. Atteint de paralysie, il souffre beaucoup. Et il va s'humilier encore plus. Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit. Et notre Seigneur Jésus-Christ, justement, en guérissant le serviteur malade, il ne va pas faire que guérir le serviteur malade, il va aussi guérir le centurion. Dans le sens que le centurion qui vient, qui n'a rien demandé pour lui, et qui demande simplement pour son serviteur, non seulement va obtenir la guérison du serviteur, mais il va obtenir sa propre guérison. Donc ce centurion, donc la tradition de l'Église a gardé son nom. Il s'appelait Caius Cornelius, en bas de la page 21 du polycopier. Caius Cornelius. Et c'était le père de Caius Oppius, ou Pias, lui aussi qui était un centurion, qui se tenait au pied de la croix du Christ, qui vit les miracles faits au ciel, dans le soleil, la terre et les rochers, se convertit au Christ. Et le père et le fils, plus tard, prêcheront l'évangile en Judée et en Espagne. Donc, ce centurion ne demande rien pour lui, demande que pour son serviteur, il obtient la conversion du serviteur, et il obtient sa propre conversion. Il va obtenir la conversion du serviteur dans le corps du serviteur et la conversion de celui qui demande, à savoir du centurion, dans l'âme du serviteur. Dans l'âme du centurion et non pas dans son corps. Voyez. Donc c'est un exemple extraordinaire de ce que doit être la prière. Si la prière est comme ça, c'est-à-dire si notre prière est justement suffisamment humble, à ce moment-là, on obtient quelque chose. C'est le grand drame, moi, on voit ça tout le temps. C'est comme ces gens, ils sont fous, qui vont par exemple se mettre à prier uniquement quand il y a un pépin. Bon, alors il y a un examen qui arrive, et puis on va aller bouler un cierge devant la Sainte Vierge, et on commence à faire des neuvaines, etc. Et demander au bon Dieu, je veux l'examen, s'il vous plaît, donnez-moi l'examen, si vous me donnez cet examen, je ferai telle et telle chose. Mais ils ne se rendent pas compte que ce n'est pas du tout comme ça qu'on prie. Quand on prie comme ça, c'est pratiquement la meilleure façon d'obtenir que le bon Dieu ne fasse rien du tout. Mais la vraie prière, c'est celle du centurion. Il ne demande rien. Mon Dieu, je suis là. Seigneur, je suis là. Je sais que vous êtes Dieu. C'est pour ça que je vous demande la guérison de mon serviteur. Si je ne savais pas que vous étiez Dieu, je n'aurais rien à vous demander. Parce que Dieu seul peut guérir comme ça de loin. Hein? Et en plus de ça, le centurion va dire... En gros, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à notre Seigneur, et Seigneur, il fait un acte de foi extraordinaire, parce qu'il dit non seulement, il demande la guérison du serviteur, mais il dit au bon Dieu, il dit à notre Seigneur Jésus-Christ, vous n'avez pas besoin de venir chez moi. Vous êtes Dieu, vous pouvez faire à distance. Hein? Moi, je suis un homme soumis à la puissance d'un autre, ayant sous moi des soldats, je dis à l'un, allez, et il va. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi qui suis un pauvre gang, un pauvre soldat romain, je suis un officier, je donne des ordres et on obéit. Mais vous êtes bien plus qu'un officier, vous êtes le Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Et donc, puisque vous êtes le Seigneur, la Seigneur, il suffit que vous demandiez quelque chose et votre Père vous l'accordera. Donc, vous n'avez même pas besoin de venir chez moi. Et c'est pour ça qu'il dit, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit. Vous voyez, donc cette prière du centurion est une prière magnifique parce qu'elle montre bien l'exemple qui doit être notre prière, c'est-à-dire ne pas considérait un peu notre Seigneur simplement comme une espèce de vache à lait, donc on va quand on a besoin de quelque chose. Voyez, c'est facile de... beaucoup de gens, ils ne prient que quand ils demandent quelque chose, quand tout va bien. Mais non, il faut savoir prier et dire par avance au bon Dieu, mon Dieu, que votre volonté soit faite. Page 22, versets 8 à 13. En attendant, en l'entendant, Jésus fut dans l'admiration. Alors on voit très bien, notre Seigneur admire la prière magnifique, l'humilité de la prière du centurion. Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, en vérité, je vous le dis, je n'ai pas trouvé une si grande foi dans Israël. Aussi je vous dis que beaucoup viendront de l'Orient, de l'Occident, et auront place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors Jésus dit au centurion, allez, et qu'il vous soit fait selon ce que vous avez cru, et le serviteur fut guéri à l'heure même. Il y a notre Seigneur Jésus-Christ qui voit une telle foi dans le centurion, ne va même pas aller chez lui. Mais là, il fait une annonce qui va faire grincer des dents tous les juifs qui ont entendu ça, sauf ceux qui savaient exactement ce qui se passait. Donc notre Seigneur Jésus-Christ annonce là, déjà, que les enfants du royaume, c'est qui? Les enfants du royaume, c'est les juifs. Hein, il annonce que les enfants du royaume vont être jetés dans les ténèbres extérieures et qu'ils vont être remplacés par ceux qui viennent de l'Orient et de l'Occident. Et ceux qui viennent de l'Orient et de l'Occident, c'est qui? C'est les gentils. Donc notre Seigneur ici annonce déjà le changement de peuple élu. Donc on est obligé, attention, parfois on a des catholiques, moi j'ai parfois rencontré des catholiques de tradition qui n'acceptent pas de dire de reconnaître que le peuple juif était le peuple élu. C'est de foi. Il est de foi que le peuple juif était le peuple élu avant notre Seigneur Jésus-Christ. Mais le rideau du temps se déchire en deux au moment de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ pour bien montrer que c'est la fin de l'élection du peuple élu de l'Ancien Testament et l'arrivée d'un nouveau peuple élu. Ce nouvel peuple élu est un peuple élu qui vient tout à fait au début, pratiquement exclusivement de l'ancien peuple élu. Pourquoi? Parce que tous les apôtres, notre Sainte Vierge Marie, même notre Seigneur Jésus-Christ dans son humanité, tous les apôtres viennent pratiquement tous, sauf Saint Paul, ils viennent tous des Juifs. Donc ils viennent de l'ancien peuple élu. Mais pour passer de l'ancien peuple élu au nouveau peuple élu, il faut passer par le baptême. Et en France, on n'a pas trop de problèmes avec ça, mais aux États-Unis, j'avais de grosses difficultés avec certains fidèles, surtout quand j'étais à Richfield, avec des fidèles qui n'admettaient pas que je dise que notre Seigneur Jésus-Christ était de race juive. Je disais, vous n'allez pas en dire ça, c'est faux, les juifs sont maudits par Dieu. Mais ils ne comprenaient pas. Je dis, mais attendez, la très sainte Vierge Marie était de race juive. Ils refusaient catégoriquement, ils disaient, non, la très sainte Vierge Marie était blonde aux yeux bleus, elle n'était pas de race juive, vous n'allez pas en dire ça. Et j'ai eu de grosses difficultés avec eux, parce qu'ils considéraient que c'était une tare de venir du peuple juif. Mais en fait, notre Seigneur Jésus-Christ a préparé le peuple juif dans l'Ancien Testament, depuis le début, depuis pratiquement Adam et Ève, depuis au moins l'arrivée d'Abraham, c'est là où ça a vraiment commencé, l'arrivée d'Abraham de Canaan, à Canaan. Donc l'arrivée d'Abraham, notre Seigneur Jésus-Christ prépare le peuple juif, non pas avec l'idée que... ils vont s'arrêter au pied de la croix, hein, ils vont tous être mis et jetés en enfer, à ce moment-là, il va chercher les catholiques. Pas du tout. Il a appelé le peuple juif pour qu'au moment de la croix, il passe de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Et le problème, c'est que le drame des juifs, c'est qu'ils sont restés dans l'Ancien Testament. Ils sont restés dans l'Ancien Testament parce qu'ils n'ont pas accepté notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un livre magnifique, un peu sur ce sujet-là, qui s'appelle « Les Juifs dans le mystère de l'histoire », par l'abbé Julio Manviel, qui est excellent, qui explique bien tout ça. Et donc... on voit très bien ici l'annonce terrible de notre Seigneur Jésus-Christ qui annonce donc que ceux qui viendront de l'Orient à l'Occident auront place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob. Ça veut dire les nouveaux convertis, c'est-à-dire ceux qui viennent des gentils, non pas des juifs mais des gens, les gentils, l'Orient à l'Occident, donc c'est aussi le symbole par exemple des rois mages qui étaient aussi des païens, ils viendront pas au festin. Le festin c'est quoi? Le festin c'est le paradis. Donc notre Seigneur Jésus-Christ annonce là que ceux du peuple élu qui vont se convertir vont rentrer dans un nouveau peuple élu et que le nouveau peuple élu ne va pas simplement contenir en son sein les juifs convertis au catholicisme, il va contenir aussi en son sein des païens qui arrivent de l'extérieur. Ce que n'admettaient pas du tout les juifs. Au début, quand notre Seigneur Jésus-Christ, quand notre Seigneur Jésus-Christ a envoyé Saint Paul prêcher aux Grecs, c'était un scandale pour tous les Juifs, parce que pour eux, le seul peuple élu, c'était le peuple des gentils. Et ils sont toujours comme ça, d'ailleurs. Le peuple juif se considère comme l'unique peuple élu. Alors, de même qu'on n'a pas le droit de dire que le peuple juif n'a pas été le peuple élu, on n'a plus le droit de dire que le peuple juif est le peuple élu actuel. Les deux choses sont fausses, vous voyez. Mais donc, il faut faire attention à ça, parce que j'ai trouvé ça, surtout aux États-Unis plus qu'en France, donc on n'a absolument pas le droit d'être antisémite. L'antisémitisme en tant que tel était condamné par l'Église. Il faut bien comprendre le terme antisémitisme. C'est-à-dire, quand on dit le peuple élu de l'Ancien Testament s'est arrêté au pied de la croix, le voile a été déchiré, ce peuple élu a refusé de se convertir et Dieu est allé chercher un nouveau peuple, c'est pas l'antisémitisme, ça. Qu'est-ce que c'est que l'antisémitisme ? L'antisémitisme, c'est contre quelqu'un à cause de sa race ou à cause de son origine sémitique. C'est à cause du fait qu'il soit juif. Voyez, donc ça, il faut que les choses soient claires. Donc on n'a absolument pas le droit de dire des bêtises de ce genre. Moi, je vais pas donner de nom, mais il y a des catholiques actuellement dans la tradition qui prétendent que toute personne qui a une origine juive est une personne qui ne peut pas être acceptée dans l'Église. C'est pour ça que vous avez même des gens, un groupe assez connu en France, qui prétend que, par exemple, Saint Ignace de Loyola était un marane. Donc un juif faussement converti. Et les gens qui racontent, il y a parfois des gens qui sortent des bêtises comme ça en disant ce sont tous des marins, tous des faux juifs, des juifs faussement convertis, donc des faux catholiques. Alors après, ils embrayent sur le fait que Saint Ignace de Loyola aurait été le pape noir, etc. Ils ne se rendent absolument pas compte que tous les premiers catholiques sont tous des gens de droit de race juive. Et parfois, on nous dit, mais comment vous acceptez dans votre chapelle des gens qui viennent d'autres religions, qui sont des convertis, mais vous savez, on ne peut pas vraiment être sûr. Attention, et n'oublions pas que tous les premiers catholiques étaient des convertis de la race juive, et que donc l'Église catholique a toujours accepté dans son sein des gens de l'ancien peuple élu qui sont passés au catholicisme. Et il y a eu des très très grands saints qui étaient d'origine juive. Et donc c'est pas parce que quelqu'un est d'origine juive, ça on a noir tout le temps, on peut donner de nom, mais il y en a qui sont pénibles sur internet, qui sont toujours en train d'envoyer des messages sur ce sujet. Ah mais telle personne va maintenant à la chapelle, je sais pas trop où, à la messe traditionnelle tous les dimanches, mais vous savez, quand on examine un peu sa famille, il est d'origine juive. Et alors ? Est-ce que parce que quelqu'un est d'origine juive, il faut le rejeter ? À ce moment-là, il faut rejeter notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est d'origine juive ? Il faut rejeter notre Seigneur Jean-Marie parce qu'il est d'origine juive ? Vous voyez ? Donc là, il faut faire attention parce que donc, l'antisémitisme en tant que tel a été condamné par l'Église. On n'a pas le droit d'être contre les juifs parce qu'ils sont juifs. Par contre, on prie pour leur conversion. Et si on prie pour leur conversion, ça veut dire qu'on demande leur conversion. Alors, quand les conversions arrivent, il faut peut-être les accepter. C'est pareil pour le racisme en tant que tel. Le racisme en tant que tel a toujours été condamné par l'Église. On n'a pas le droit d'être contre une race à cause de cette race. Et donc ça, là, il faut faire attention parce qu'il y a des grosses bêtises qui ont été dites par certains catholiques. Alors, donc ce texte là en haut de la page 22 est donc très important à cause de ça, parce qu'il annonce déjà, on est pourtant assez longtemps avant encore la première année de l'apostolat de notre Seigneur Jésus-Christ dans sa vie publique, donc on est encore loin de la passion, et déjà notre Seigneur Jésus-Christ annonce que les enfants du royaume, c'est-à-dire le peuple, l'ancien peuple élu, vont être jetés dans les ténèbres extérieures. Hein. Et alors voilà ce qui est expliqué après, juste en dessous, là, le premier paragraphe, la page 22. Ceux qui viennent de l'Orient sont ceux qui abandonnent le monde immédiatement après avoir été éclairés des lumières de la foi. Ceux qui viennent de l'Occident sont ceux qui ont souffert la persécution pour la foi jusqu'à la mort. Ou bien encore, celui-ci vient de l'Orient parce qu'il a commencé à servir Dieu dès son enfance. Celui-là vient de l'Occident lorsqu'il se convertit à Dieu dans son extrême vieillesse. Donc, quand notre Seigneur Jésus-Christ utilise cette expression, je vous dis que beaucoup viendront de l'Orient à l'Occident, ça veut dire que l'Église catholique accepte, si vous voulez, prend ses enfants parmi tous les hommes. Quelle que soit leur race, quelle que soit leur famille, quelle que soit leur ancienne religion, à partir du moment où ils se convertissent et qu'ils cherchent notre Seigneur Jésus-Christ, ils sont trouvés dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il y a des très grands saints qui étaient d'origine juive, c'est absolument certain. Mais à partir du moment où une personne est d'origine juive par sa race, il faut distinguer la race et la religion, deux choses complètement différentes. Il faut distinguer la religion juive et la race juive. Notre Seigneur Jésus-Christ est de race juive, que ça plaise ou non au genre. Bon. Mais quand une personne se convertit qui est d'origine de race juive, il a toujours la race juive, il est toujours de race juive, il a toujours sa race. Mais il y a quelque chose de bien plus grand que la race, c'est l'âme, la beauté de l'âme, et par son baptême, il prend un honneur supplémentaire, ça veut dire qu'il appartient à ce moment-là, bien qu'il étant toujours de race juive, il quitte la religion juive, par exemple, pour joindre l'Église catholique. Donc il faut comprendre, il faut absolument que nos fidèles arrivent à comprendre ça, que c'est pas, on pourrait avoir un catholique qui dise « je suis de race juive ». Alors imaginez, une chapelle de la tradition, un catholique qui dise « je suis de race juive », la moitié des gens de la chapelle qui n'ont rien compris à ces trucs-là, vont dire « comment que soit-il, vous voyez partir ?» Mais non, notre Seigneur Jésus-Christ est de race juive. Donc on pourrait dire, quelqu'un aurait le droit de dire « je suis de race juive comme notre Seigneur Jésus-Christ, comme notre Sainte Vierge Marie et comme les apôtres ». Alors quand on dit ça dans le milieu, certains milieux de la tradition, les gens attrapent des boutons sur le bout du nez parce qu'ils ne peuvent pas supporter l'expression. Et pourtant, elle est vraie. Donc il faut distinguer la race et la religion. Hein? Donc à partir du moment où une personne de race juive se convertit, il est toujours de race juive, mais il n'est plus de religion juive. Bon, c'est pour ça qu'il faut, par exemple, c'était l'ancien archevêque de Paris, là, comment il s'appelait, j'ai oublié son nom, j'ai son nom au bout de la langue, l'ancien archevêque de Paris qui prétendait être juif, mais lui il prétendait être toujours de religion juive. Hein, c'est autre chose, vous voyez. C'est Lustiger, je crois, Monseigneur Lustiger, c'est ça. Donc il prétendait être toujours, non seulement de religion juive, un juif converti n'est plus de religion juive, mais il est toujours de race juive. Donc un juif converti a le droit de dire qu'il est de race juive, il n'a pas le droit de dire qu'il est de religion juive. Alors si, il est vrai qu'il y a eu dans l'histoire des maranes, bon, les maranes c'était des faux juifs, donc ils se prétendaient qu'on convertit, mais qui derrière, en catimini, gardaient les pratiques de la religion juive. C'est deux choses différentes. Mmh. Donc il faut faire un petit peu attention parce qu'il y a des bêtises qui sont dites et ça fait beaucoup de mal dans la tradition. Il appelle donc ces ténèbres extérieures parce que celui qui est chassé dehors par le Seigneur est abandonné par la lumière. Notre Seigneur Jésus-Christ est la lumière du monde. Celui qui quitte la lumière du monde parce qu'il refuse de rentrer dans la véritable religion instituée par notre Seigneur Jésus-Christ, il passe dans les ténèbres extérieures, c'est-à-dire il perd la lumière du monde. Donc l'admiration et l'étonnement, vous voyez, on voit notre Seigneur Jésus-Christ, il est dit, Jésus fut dans l'admiration. Bon. Alors les pères se sont posé la question de savoir, c'est une question importante de théologie, est-il possible pour notre Seigneur Jésus-Christ d'avoir un étonnement? Est-ce que notre Seigneur peut être étonné parce qu'il est Dieu, c'est tout. Donc il faut distinguer dans notre Seigneur Jésus-Christ sa double nature. Notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu et homme. Donc en tant que Dieu, il connaît tout. En tant qu'homme, il ne connaît pas forcément tout. Notre Seigneur Jésus-Christ a appris les choses. Il a ce qu'on appelle une science expérimentale par laquelle il apprenait en tant qu'homme. Et donc il faut distinguer les deux choses. Notre Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez, ayant une double nature, a une double intelligence, une double volonté. Il a une intelligence divine, une intelligence humaine. Il a une volonté divine, une volonté humaine. C'est la seule façon de comprendre une phrase comme celle de la Passion, « Mon Dieu, mon Père, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Il y a des gens qui se sont scandalisés par ça, et c'est la phrase sur laquelle se basait Arius pour dire, voyez, si Jésus a dit en mourant sur la croix, « mon Père, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Donc il n'est pas Dieu. Mais attendez, là, il parle comme homme. Comme homme, comme, il est parfaitement homme et parfaitement Dieu. Donc, il ne faut pas imaginer, parfois on entend un petit peu ça, Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, comme une espèce de mélange d'humanité et de divinité. Ce n'est pas l'humanité et la divinité qui sont mélangées, elles sont parfaitement séparées. Il est parfaitement Dieu, parfaitement homme. Il a tout pris de l'humanité sauf le péché. Et donc là, c'est expliqué ici, en dehors de la science divine qu'il avait comme Dieu, par laquelle il connaissait tout, le Christ comme homme avait encore trois sciences, qu'on appelle les trois connaissances de Dieu. Béatifique, infuse, expérimentale. Alors, attention donc, la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ est uni à la nature divine dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon. On le voit, on l'explique en général avec la Passion. C'est-à-dire, au moment, après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, son corps est déposé au tombeau. Bon. Il est mort. Puisqu'il est mort, il y a séparation entre son corps et son âme. Donc son âme va être séparée de son corps pendant 36 heures. Elle va descendre aux enfers, au paradis d'Abraham, pour consoler toutes les âmes qui sont mortes en état de grâce de l'Ancien Testament. Bon. Mais son corps reste sans l'âme, reste au tombeau. Mais le corps étant le corps d'une personne qui a été Dieu, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ dans le tombeau, même après la séparation de l'âme, est toujours uni à la divinité. De même, l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ qui descend au limbe des patriarches. Donc, c'est bien expliqué aux gens. Lorsque il y a séparation entre corps et l'âme, il n'y a pas une âme divine entre Seigneur Jésus-Christ. Il y a une âme humaine. Dieu n'a pas d'âme en tant que telle, puisqu'il est Dieu. Il ne faut pas dire il y a un corps divin, une âme divine, un corps humain, une âme humaine. Non, pas du tout. Il y a un corps humain, une âme humaine. Notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment homme. Et dans la personne divine, il y a une double nature, c'est-à-dire en même temps la divinité. Donc l'âme humaine de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que l'âme en tant que telle est humaine, c'est une création. Donc l'âme humaine de notre Seigneur Jésus-Christ qui descend dans les limbes est toujours unie à la divinité. Et c'est pour ça que cette âme qui descend dans les limbes des patriarches va pouvoir littéralement transformer ce lieu en paradis. Pourquoi ? À cause de sa divinité, justement. Et donc, il faut, c'est ce qu'enseignent c'est tous les théologiens, c'est que donc en tant que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est tout, en tant qu'homme, il faut distinguer. Donc en tant qu'homme, il y avait trois sciences de connaissance. Une connaissance béatifique. Notre Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'homme, avait la vision béatifique. Il n'avait pas la vision béatifique en tant que Dieu, puisqu'en tant que Dieu, il est Dieu. Donc, il n'a même pas besoin d'avoir la vision béatifique, puisqu'il est largement... Il est Dieu, et donc c'est tout, connaît tout, et le maître de tout. Mais en tant qu'homme, il a une vision béatifique. Et ça, encore une fois, c'est... Là, on touche un des plus grands mystères de la foi. Hein. Comment est-il possible pour notre Seigneur Jésus-Christ, qui est parfaitement Dieu, mais qui est aussi parfaitement homme, dans une seule personne, comment est-il possible pour cette personne qui souffre, de souffrir vraiment, réellement dans son humanité, alors que son humanité est unie à la divinité. Et donc, les théologies enseignent que même sur la croix, même en train de souffrir les affres de l'agonie sur la croix, notre Seigneur Jésus-Christ avait la vision béatifique. Donc il a toujours eu la vision béatifique en tant qu'homme, mais cette vision béatifique n'empêchait pas, miraculeusement, n'empêchait pas la souffrance réelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a des gens qui ont nié les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ, qui disaient, mais tout ça, c'est purement extérieur. Notre Seigneur Jésus-Christ étant Dieu ne peut pas souffrir, c'est impossible. Vous voyez, ce sont toutes les grandes hérésies et les grandes hérésies des premiers siècles, ou celles qui niaient la divinité, ou celles qui niaient l'humanité. Donc il y a une vision béatifique, une connaissance béatifique, par laquelle il jouissait de l'essence divine par la vision béatifique. Donc on explique comme ça, donc la vision béatifique venait du fait que son humanité était unie à sa divinité dans la même personne. Donc, l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ composée, comme tous les hommes, de deux choses, un corps et une âme. Un homme, c'est une union d'un corps et une âme. Donc, le corps et l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ sont un corps parfaitement humain, une âme parfaitement humaine. Donc, corps et âme de notre Seigneur Jésus-Christ sont tous les deux créés. Mais encore une fois, on rentre dans des mystères incroyables. Il y a dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, qui comprend à la fois la nature humaine et la nature divine, il y a quelque chose de créé. C'est quelque chose de créé, c'est sa nature humaine. Donc, on doit dire, et on peut dire que la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa nature humaine, il a la vision béatifique, mais on n'a pas le droit de dire que la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ a toujours existé. Parce que ça, c'est de l'hérésie. C'est aussi une hérésie qui consiste à dire que l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ préexistait avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. On tombe dans l'origénisme. Ça, c'est faux. Origène, c'est une des erreurs d'Origène qui prétendait, lui, que toutes les âmes avaient été pré-créées. Non, notre Seigneur Jésus-Christ, au moment précis où la très sainte Vierge Marie, à la visite de l'ange Gabriel, a donné son fiat, à cet endroit, à ce moment précis, a été créé là, le corps et l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a d'abord une vision béatifique, enfin ce qu'on appelle une science béatifique qui correspond à la vision béatifique. Deuxièmement, une science infuse. Par laquelle, par le moyen des images envoyées à son âme par Dieu au moment de sa conception, il savait connaître toutes choses. Donc encore une fois, son corps et son âme sont unis à cette divinité. Donc en tant qu'un corps uni à la divinité, une âme unie à la divinité, notre Seigneur Jésus-Christ avait une science infuse par laquelle il savait tout. Mais il avait aussi une science expérimentale. Une science expérimentale par laquelle les choses, ces choses qu'il comprenait par science infuse, il les voyait, les entendait et les comprenait expérimentalement. Alors c'est assez un miracle, parce que c'est quelque chose, un mystère plutôt. Et notre Seigneur à la fois savait tout, et à la fois, en tant qu'homme, acceptait d'apprendre. Et, mais il y a des livres qui ont été écrits sur ce sujet, c'est pas évident à comprendre. Parce que c'est vraiment un grand mystère. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, pour répondre à la question, donc, est-ce qu'il était possible pour notre Seigneur Jésus-Christ d'être dans l'admiration? Jésus fut dans l'admiration. Dans l'admiration, c'est parce qu'on est devant quelque chose de curieux qu'on ne connaissait pas avant. Donc, dans sa science expérimentale, notre Seigneur Jésus-Christ a été dans l'admiration. Mais pas dans sa science infuse, dans sa science béatifique, parce qu'à cause de la vision béatifique, il connaissait tout. D'accord? Donc, ainsi proprement et absolument parlant, c'est le troisième paragraphe de la page 22, ainsi proprement et absolument parlant, l'étonnement n'existait pas dans le Christ comme quelque chose coulant des profondeurs de son cœur. Car l'étonnement se lève en nous quand nous voyons ou entendons quelque chose de nouveau. Mais le Christ, par le moyen de sa science infuse, savait toutes choses avant qu'elles ne fussent faites. Comme par son omniscience il connaissait tout, rien pour lui ne pouvait être nouveau, inconnu, surprenant et merveilleux. Cependant, le Christ, par connaissance expérimentale, pouvait, lorsqu'il était témoin d'une chose, nouvelle ou merveilleuse, manifester un certain acte intérieur d'étonnement et même l'exprimer extérieurement par son expression afin d'enseigner aux autres à s'émerveiller de la même manière. C'est-à-dire que notre Seigneur Jésus-Christ étant parfaitement homme, l'homme étant sujet à l'étonnement, notre Seigneur Jésus-Christ a accepté d'être étonné par des choses qu'en fait il connaissait déjà par science infuse et par science béatifique. Là, c'est un mystère, donc on peut méditer dessus, on ne peut pas tout comprendre et ni tout expliquer, c'est impossible. Alors, mystiquement, le centurion, disent les pères, représente toute personne qui est maîtresse de ses membres, de ses sens et de ses facultés, pour pouvoir, comme cela, soldat, se battre pour Dieu et pour le servir. Donc, c'est un rapport avec la phrase précédente où il dit « Je suis un homme soumis à la puissance d'un homme, d'un autre ayant sous moi des soldats, et je dis à l'un, allez, il va, et à l'autre, venez, il vient. » Ça représente quoi? Les pères disent, cette soumission représente la soumission qui vient de l'intelligence, par laquelle la volonté est soumise à l'intelligence et les passions soumises à la volonté. Donc ce passage est un passage extrêmement, extrêmement important à cause de ça, parce que c'est un des premiers lieux théologiques dans l'Écriture sainte, dans lequel on annonce, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même annonce le fait que le peuple élu de l'Ancien Testament va laisser la place au peuple élu du Nouveau Testament qui n'est pas le même, tout en reconnaissant que les premiers membres du nouveau peuple élu viendront de l'ancien peuple élu. Et c'est là où on voit les conséquences des bêtises énormes qui sont dites par exemple par Bergoglio, qui était dit aussi par Lustiger et tous les évêques modernes, qui prétendent que le peuple élu de l'Ancien Testament est toujours le peuple élu d'aujourd'hui. C'est le peuple de l'Alliance, c'est la Nouvelle Alliance. Non, c'est la Nouvelle Alliance, justement. Nouvelle Alliance, ça veut dire changement de peuple. Il y avait une alliance avec l'ancien peuple. L'ancien peuple qui accepte de venir dans le nouveau peuple a l'alliance de nouveau avec notre Seigneur Jésus-Christ. Mais notre Seigneur Jésus-Christ a une alliance maintenant avec le Nouveau Testament, avec le nouveau peuple, et ceux qui refusent d'intégrer ce nouveau peuple ne sont pas dans l'alliance de notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord ? Alors, versets 14 et 15, du chapitre 8 de Saint Matthieu, Jésus étant venu dans la maison de Pierre, vit sa belle-mère qui était couchée et qui avait la fièvre. Il lui toucha la main, et la fièvre la quitta, et elle se leva et elle les servait. Donc il y a beaucoup de choses à dire aussi sur ces phrases qui semblent anodines, quoi. Dieu, mais que c'est important de savoir que la belle-mère de Pierre était avait la fièvre. Mais c'est qu'il y a derrière tout un symbole, si vous voulez. on voit que cette fièvre, si vous voulez, c'est la fièvre qui représente le péché. Et quand le péché quitte une âme, la première chose que doit faire cette âme, c'est se lever, puis servir notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous, le Samaritain qui revient remercier Dieu d'avoir été guéri de la lèpre, il tombe au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que lui dit notre Seigneur ? Levez-vous. La même phrase. Mais elle se leva. Levez-vous, ça veut dire, levez-vous maintenant, vous êtes un autre homme. Vous avez trouvé la foi, votre foi vous a sauvé, vous aviez une foi informe, vous avez maintenant une foi formée, vous avez une foi sans la charité qui était moribonde, maintenant vous avez une foi avec la charité qui est une foi beaucoup plus forte, donc levez-vous et servez notre Seigneur Jésus-Christ. Et elle se lève pour servir notre Seigneur Jésus-Christ. Hein? Donc vous savez que, que Saint-Pierre était marié, donc c'est le seul apôtre dont on parle de l'épouse de Saint-Pierre. Donc il y a une petite note, j'ai mis en page 23, mais je vais en parler dès maintenant parce qu'on est sur le sujet là. La mention de la belle-mère pour Pierre prouve que Saint-Pierre était marié. Et pour suivre le Christ, il quitta sa femme et sa fille. Il y avait une fille qui s'appelait Pétronille. Il est le seul apôtre dont il est dit dans l'évangile qu'il avait une épouse. L'épouse de Saint-Pierre s'appelait Perpétue. Mais d'autres disent que son prénom était Concordien au mari. Plus tard, convertie au Christ, elle fut menée au martyre et fut soutenue par Saint-Pierre. « Ô épouse, dit-il, souvenez-vous du Seigneur. » Pétronille, donc la fille de Saint-Pierre, en raison de sa grande beauté, fut demandée en mariage par un homme nommé Flaccus, un Romain donc. Elle demanda 3 jours pour réfléchir. Le temps étant passé, elle reçut la sainte communion du prêtre Nicodème, puis rendit son âme à Dieu. Elle est considérée comme une sainte parmi les vierges, et son nom se retrouve au calendrier pour le dernier jour du mois de mai. Ses reliques sont encore conservées à Rome, dans la basilique Saint-Pierre. Donc, la tradition dit que le seul apôtre qui était vierge était Saint Jean. Donc ça insinue que tous les apôtres étaient mariés. Mais la seule mention de l'épouse d'un des apôtres, c'est à cet endroit-là. Alors reprenons en bas de la page 22. Donc les pères de l'Église vont parler un petit peu de cette fièvre pour expliquer un peu les choses. Dans le sens mystique, donc Jésus étant venu dans la maison de Pierre, il vit sa belle-mère qui était couchée, qui avait la fièvre. La maison de Pierre figure la loi ou la circoncision. La belle-mère est la figure de la synagogue, qui est en quelque sorte la mère de l'Église confiée à Pierre. C'est elle qui est malade de la fièvre, et cette fièvre de jalousie dont elle brûlait en persécutant l'Église. Le Seigneur lui touche la main en changeant ses œuvres charnelles et lui donnant une direction toute spirituelle. Donc la belle-mère de Pierre, qui est couché avec la fièvre et qui, au contact de Saint-Pierre, de notre Seigneur Jésus-Christ, se lève, retrouve la santé et sert notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le symbole des Juifs qui se convertissent à la foi catholique. C'est ce que dit Saint-Bède le Vénérable. Saint-Rémy lui dit que par la belle-mère de Pierre, on peut entendre la loi, qui, selon l'apôtre, était affaiblie par la chair, c'est-à-dire par le sens charnel qu'on lui donnait. Mais lorsque le Seigneur se fut rendu visible au milieu de la synagogue par le mystère de son incarnation et qu'il lui fait voir dans ses œuvres l'accomplissement de la loi en même temps qu'il en donnait l'intelligence spirituelle, elle reçut bientôt tant de force cette union avec la grâce de l'Évangile qu'après avoir été un instrument de mort et de châtiment, elle devint comme le ministre de la vie et de la grâce. Donc, on retrouve la même idée. Il y a la fièvre représente le manque de foi. Notre Seigneur Jésus-Christ enlève cette fièvre du corps et s'entraîne la foi. Et donc cette foi va faire que l'âme se lève avec une dimension nouvelle et va se mettre à servir notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on ne se lève pas pour faire sa volonté, on se lève, c'est-à-dire qu'on se convertit d'une fausse religion. À partir du moment où on est converti, on se lève et on sert notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une façon de voir qu'il y a une véritable conversion. Une véritable conversion va entraîner le fait que la personne nouvellement convertie va servir notre Seigneur Jésus-Christ. Un autre théologien, Rabban Mor, dit « Toute âme qui est en lutte avec les passions de la chair est comme travaillée par la fièvre. Et à peine a-t-elle été touchée par la main de la miséricorde divine, elle recouvre la santé, elle réprime les désirs licencieux de la chair et fait servir la justice les membres qu'elle avait consacrés à l'impureté. » Ça veut dire que l'âme qui est fiévreuse, le corps qui est fiévreux, plus exactement, représente les passions qui ne sont pas dominées par la volonté, par l'intelligence. Donc il y a une hiérarchie. Patient dominé par la volonté, volonté par l'intelligence, intelligence soumise à Dieu. Donc la fièvre représente le fait que la volonté n'a plus la force de dominer les passions. Donc les passions passent n'importe quoi, et du coup, l'âme ne peut pas plus se mettre au service de notre Seigneur Jésus-Christ. Page 23. Vous voulez que j'allume ma lumière ? Ça va ? Page 23. Là, je mets Saint-Hilaire, donc autre interprétation de Saint-Hilaire. Le grand apôtre en France. On peut voir dans la belle-mère de Pierre le vice pernicieux de l'infidélité, auquel se trouve toujours jointe la liberté de la volonté, qui nous attache à lui, comme par les liens les plus étroits. Mais aussitôt que le Seigneur entre dans la maison de Pierre, c'est-à-dire dans notre corps, il guérit cette infidélité toute brûlante des ardeurs du péché, et débarrassée de l'accablante domination des vices, elle consacre la santé qu'elle recouvre au service de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la fièvre représente l'infidélité. L'infidélité, c'est l'absence de foi. Hein? L'absence de foi. On trouve aussi un autre terme, la perfidie. C'est le même sens, en fait. Les juifs perfides, pas du tout dans le sens actuel du mot en France. Le juif perfide, c'est le juif qui est infidèle. Qui est infidèle parce qu'il n'a pas la foi en véritable Christ. Au Christ, puisque il attend toujours notre Seigneur Jésus-Christ, donc il nie que celui qui est venu il y a 2000 ans soit le Christ. Donc, le deuxième paragraphe, j'ai déjà expliqué, c'est l'histoire de Sainte Pétronille, donc la fille de Saint-Pierre, canonisée par l'Église. Enfin, je vérifie si son épouse est canonisée par l'Église. Là, dans ce texte, on n'en parle pas. On en parle de l'épouse, mais on ne dit pas qu'elle est canonisée par l'Église. Alors maintenant, voyons un peu le sens anthropologique. Le sens anthropologique et le sens moral. Alors, il y a les pères en ont beaucoup parlé. On voyait très bien que les pères assistaient beaucoup sur les maladies, parce que dès qu'on parlait de maladies, on parlait de choses concrètes. Les gens savaient très bien ce que ça voulait dire d'avoir la fièvre. La fièvre, ils l'avaient tous eu, donc la fièvre, oui, sachez ce que c'est. Voyez, donc, ça leur parlait plus encore que, par exemple, la lèpre. Parce que la lèpre, bon, ils savaient que c'était une maladie épouvantable, mais ils ne l'avaient pas eu en général. Par contre, la fièvre, oui. Alors la fièvre, anthropologiquement, la fièvre de l'âme, c'est le feu de la concupiscence. La chaleur brûlante de la luxure, de la gourmandise, de l'orgueil et de l'envie. Et donc, là, j'ai repris chez les pères 9 correspondances entre la fièvre corporelle et celle de l'âme. J'ai pris ça chez Thierry, on trouve ça aussi chez Saint Thomas, dans la chaîne d'or, et dans Cornelius à Lapide. Alors il y a des choses splendides, hein. Je vais vous lire ça parce que c'est vraiment magnifique. Donc on voit très bien comment des choses qui semblent insignifiantes, comme la fièvre de la belle-mère de Pierre, ont un sens caché. Anthropologiquement, je rappelle, c'est le sens moral. C'est-à-dire, la fièvre signifie quelque chose pour nous, dans notre vie de tous les jours. Premier point, la fièvre arrive quand l'humidité malsaine à une chaleur anormale, opposée à la chaleur naturelle, affecte le cœur. Il y a donc la fièvre dans l'âme, lorsque la volonté de l'homme s'ancre dans l'amour de la concupiscence, lequel est contraire à l'amour de Dieu. Ça veut dire que tant que je suis sous l'emprise des 3 concupiscences, la chair, les yeux et l'orgueil, je n'ai pas une volonté libre. Et donc je ne peux pas me mettre au service de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ enlève la fièvre d'une âme, il va couper le lien qui maintenait la volonté esclave. C'est les 3 concupiscences qui maintiennent la volonté dans l'esclavage. Donc à partir du moment où une âme se convertit, une âme est guérie, c'est le principe de la fièvre qui disparaît, la fièvre disparaît, l'âme se convertit, et donc la volonté reprend son droit, si vous voulez, de dominer les passions. Deuxième point. La fièvre de l'âme met fin à la bonne régulation des passions et des affections. C'est le même principe, c'est-à-dire que les passions sont sauvages dans la mesure où ces passions sont sauvages dans la mesure où elles ne sont pas dirigées par la volonté. La fièvre représente l'absence de direction de la volonté sur les passions. Troisième point. Comme la fièvre peut se détecter à la violence du pouls, ainsi la fièvre de l'âme est-elle détectée par un souci, une anxiété excessif, augmentant le pouls de l'âme. Un des premiers point qu'on peut voir, qui permet de voir comprendre qu'une personne n'a pas la paix en elle-même, justement, c'est l'excitation constante. Et on le voit dans le monde moderne. Les gens du monde moderne sont en constante excitation. Eh bien, lorsque la fièvre qui représente l'excitation du monde moderne disparaît, on trouve la paix intérieure. Quatrième point, la fièvre spirituelle excite une soif pour les richesses, les honneurs et les plaisirs, soif qui est augmentée par leur possession. Bon, c'est un peu toujours la même idée, c'est-à-dire que cette fièvre représente le désir des richesses, le désir des honneurs, des plaisirs, et le désir de la possession, littéralement immortelle, de toutes ces joies du monde. C'est ce qu'on appelle la concupiscence du monde. Alors, la fièvre de l'âme, autre point, souvent née de la négligence, de la torpeur, de la vie facile. La cupidité, de la luxure et de l'orgueil s'enflamment de la même façon. Bon, donc, rappelez-vous ce qu'on dit, que la mère de tous les vices, c'est l'oisiveté. C'est un peu l'idée qui est là. C'est-à-dire que la négligence, la torpeur, la vie facile, c'est l'oisiveté. Ça va de l'oisiveté. Et bien, cette oisiveté va faire que la volonté va perdre le contrôle des passions. Et à ce moment-là, c'est la luxure et l'orgueil qui vont s'enflammer. Alors, la fièvre de l'âme, autre point des pères, la fièvre de l'âme rend les choses, la fièvre de l'âme rend les choses divines, telles que la lecture spirituelle, insipides. Il y a la fièvre, on dit que la fièvre supprime le goût. Je ne sais pas si c'est vrai, mais quand quelqu'un est fiévreux, il ne sent plus le goût des aliments. Eh bien, les pères disent la fièvre de l'âme, c'est-à-dire le fait qu'on est sous la concupiscence des yeux, de la chair et de l'orgueil, vont enlever tout goût des choses divines. C'est pour ça que quelqu'un qui est sous la pression des concupiscences n'a plus aucune envie de parler. Plus aucune envie de prier. Donc, ensuite, il y a un point suivant expliqué par d'autres pères. La fièvre de l'âme rend l'âme faible, sans réaction et déformée. C'est toujours la même idée, c'est-à-dire cette fièvre représente les chaînes données par les trois concupiscences sur la volonté, qui fait que la volonté n'est plus libre de maîtriser les passions. Et donc à ce moment on devient esclave des passions. La fièvre de l'âme, disent les pères, rend l'homme inquiet de telle façon qu'il ne puisse plus fixer son esprit sur quoi que ce soit. Toujours instable, il va tomber dans toutes sortes d'envies. On voit très bien ça dans le monde moderne, surtout avec les jeunes, cette espèce d'instabilité qui fait qu'ils désirent toujours quelque chose de nouveau. On leur donne un cadeau, on leur donne un jouet, et puis au bout de 10 minutes, ils veulent tout de suite quelque chose de nouveau. Vous voyez ? Enfin, dernier point, une fièvre peut en produire une autre, un vice en produit un autre, puis encore un autre, etc. Donc l'hérétique travaille sous une fièvre pestilente, le paresseux sous une fièvre lente, le gourmand sous une fièvre journalière, et l'inconstant sous une fièvre tierce. Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire différentes espèces de fièvres qui vont travailler sur différentes personnes en fonction des passions. Les démons, une fois que la volonté ne contrôle plus les passions, voit très bien quelles sont les passions à qui on a lâché la bride, et va surtout travailler sur ces passions-là. Alors il y en a, ça sera plus la concupiscence des yeux, d'autres plus la chair. Si certaines personnes, ça sera, je ne sais pas moi, l'amour de l'argent, si d'autres personnes, ça sera l'amour de la bouteille, de trop boire, chez d'autres personnes, ça sera la paresse, etc. Et donc on voit très bien, c'est ça ce qu'on appelle en avis spirituel le défaut particulier. Donc il est très important de connaître son défaut particulier et de savoir lutter contre son défaut particulier. C'est-à-dire que le démon sait très bien où est notre faiblesse. On a tous une faiblesse. On a plusieurs en général. Mais en général, nos faiblesses sont toutes dirigées par une faiblesse qui dirige les autres. Et donc il faut la connaître. Et Saint Ignace insiste beaucoup dans ses exercices, avec raison, qu'il faut avoir justement la connaissance de soi-même. Et il dit que quand on a la connaissance de soi-même, on sait exactement, c'est comme si vous voulez, un médecin qui examine un malade et qui comprend la maladie. Voilà, cette personne a telle maladie. Donc ayant telle maladie, je vais donner tel médicament pour aller aux racines même de la maladie. Si le médecin ne sait pas, ne connaît pas la maladie, il va aller à tâtons, il va perdre un temps fou parce que les médicaments qu'il donne ne sont pas forcément adaptés à telle maladie. On voit très bien donc le rôle de la fièvre, et cette fièvre revient souvent dans les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. L'âme malade est une âme fiévreuse. L'âme malade est une âme une âme qui n'est plus capable de se tenir debout. D'ailleurs, on le voit très bien dans l'histoire du bon samaritain. L'homme qui a été roué de coups par les voleurs, il est à moitié mort sur la route, il est incapable de marcher par lui-même. À tel point que le bon samaritain est obligé de le porter et de le mettre sur l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ pour l'amener au confessionnal et l'amener à l'église. Attends, je peux avancer encore un peu. Terminer ce qui est le prochain point là. Donc en bas de la page 23, versets 16 et 17, je vais terminer ces deux-là. Quand le soir fut venu, on présenta à notre Seigneur de nombreux possédés, et il chassait les esprits par sa parole, et il guérit tous ceux qui étaient malades, afin que s'accomplisse ce qui a été dit par le prophète Isaïe, il a pris lui-même nos infirmités, et s'est chargé de nos maladies. Si mes souvenirs sont exacts, je crois que c'est cette phrase qui est en début, en exergue du film de Mel Gibson sur la Passion. Je crois bien qu'il a pris ce texte d'Isaïe, il a pris lui-même nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. La première phrase qui apparaît dans le film, juste avant la première image, justement, c'est une phrase magnifique. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, qui prend nos infirmités sur lui, qui se charge de nos maladies. Pourquoi ? Parce qu'il est véritablement homme. Et non seulement il accepte les maladies courantes de l'homme, sauf le péché, mais il prend toutes ces maladies sur lui-même. Rappelez-vous l'image du bon samaritain qui met le mourant sur sa monture. Et tous les pères de l'Église expliquent que la monture, c'est le symbole de l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ va toucher beaucoup plus les cœurs que sa divinité, parce que l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ est tout de suite visible, alors que sa divinité n'est pas visible immédiatement. On voit la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ qui va éclater, par exemple, lorsqu'il y a un miracle, ou dans des cas très particuliers, comme par exemple la transfiguration. La transfiguration, notre Seigneur Jésus-Christ devient transfiguré devant Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean, sa face qui devient comme le soleil, ses vêtements qui deviennent plus blancs que la neige. Là, oui, on voit la divinité, mais c'est relativement rare. Les gens qui côtoyaient notre Seigneur Jésus-Christ ne voient pas sa divinité. Ils voient son humanité. Et donc, l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ va permettre aux âmes, si vous voulez, de s'approcher de Dieu beaucoup plus facilement. Remarquons que toutes ces guérisons s'opèrent non pas le matin, ni au milieu du jour, mais vers le soir, lorsque le soleil est sur son coucher, et que le grain tombe dans la terre pour y mourir et produire des fruits en abondance. Donc là, il y a des phrases des pères de l'Église. Le coucher du soleil figure la passion et la mort de celui qui a dit « Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde ». Celui qui, dans le temps de sa vie mortelle, n'a enseigné qu'à très petit nombre de juifs, mais qui, après avoir détruit l'empire de la mort, a promis les dons de la foi à toutes les nations répandues sur la face de la terre. C'est pour ça qu'il est mis « Il a pris lui-même nos infirmités, s'est chargé de nos maladies ». Il n'est pas dit « Il a pris lui-même les infirmités des juifs et s'est chargé des maladies des juifs ». Non, tout le monde. Tous ceux qui acceptent de reconnaître cette humanité, notre Seigneur Jésus-Christ, vont pouvoir être délaissés de leurs infirmités et de leurs maladies. Les infirmités et les maladies, c'est évidemment les péchés. Donc, les pères vont expliquer ces mots d'Isaïe. Donc, il a pris lui-même nos infirmités, s'est chargé de nos maladies. En haut de la page 24, la première signification, les maladies de l'âme, les péchés, leurs peines. Donc cette phrase de notre Seigneur, il a pris nos infirmités, s'est chargé de nos maladies, cela représente les maladies de l'âme, donc les péchés et les conséquences du péché que le Christ a pris sur lui-même et aboli sur la croix. Deuxième explication, ça représente aussi les maladies corporelles, qui sont parfois la conséquence des maladies de l'âme. Le Christ n'est pas devenu malade lui-même, là, il faut d'orthographe. À corriger, il n'est pas devenu malade lui-même, mais par compassion, il guérit les malades. Donc on voit que notre Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez, a vraiment pris notre humanité, parce qu'il ne va pas se contenter de guérir les péchés. Il pourrait se contenter de guérir les péchés, puisque c'est l'âme qui compte. Il va guérir aussi les maladies physiques, pour bien montrer qu'il guérit la personne qui est attaqué dans son âme, et souvent comme les maladies de l'âme ont une conséquence sur les corps, il va aussi guérir les corps. Voyez, pour bien montrer, si vous voulez, que le catholique, ce n'est pas quelqu'un de désincarné, c'est quelqu'un qui doit suivre notre Seigneur Jésus-Christ avec son âme et avec son corps. Donc il guérit et à la fois les maladies spirituelles, les maladies de l'âme, et les maladies corporelles, les maladies du corps. Donc le Christ a porté bien des tourments jusqu'à la mort sur la croix pour pouvoir guérir toutes les infirmités et même la mort, soit ici-bas, soit la résurrection, détruisant nos péchés et toutes ses conséquences et ses peines. Le Christ avait donc le pouvoir de guérir les maladies en les prenant sur lui-même et en les réparant et les expiant sur la croix. Donc par sa mort sur la croix, il montre qu'il est vraiment homme, et par sa résurrection, il va montrer qu'il est vraiment Dieu. Bon, on va donc arrêter là. Chapitre, donc on en est où? Chapitre 18. Chapitre 8, pardon, Saint Matthieu, verset 18. Donc on commencera à cela la prochaine fois. Donc aujourd'hui, on est le 21, c'est ça, non? 21, 8. Voilà. Terminé par une prière. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.
Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.